trois jours plus tôt. Dans la salle du conseil, Horace et Jean-Bénédicte regardaient, éberlués, les documents que Tarnogol avait déposés sur la table. Des dizaines de pages obtenues auprès du service de la comptabilité.
« Je ne voulais pas vous en parler avant d'avoir réuni tous les éléments, » expliqua Tarnogol. « Je ne voulais pas que vous pensiez que j'orchestrais une campagne de dénigrement contre Macaire, mais l'heure est grave, car l'homme que vous voulez nommer président vole la banque depuis des années en se faisant payer de coûteux voyages à travers toute l'Europe sans aucune justification. »«
Est-ce que vous en avez parlé à Macaire ?» demanda Jean-Bénédicte.
« J'aurais aimé qu'il soit là avec nous pour qu'il s'en explique, mais il n'est pas à la banque ce matin. Il est à Madrid, je le sais car, comme vous pouvez le voir sur ce relevé, la banque a payé pour des billets d'avion en classe affaires et la location d'un appartement pour le week-end. Mais Macaire n'a jamais eu de client madrilène. Il ne parle pas un mot d'espagnol. Vous pouvez remonter sur des années. Londres, Milan, Vienne, Lisbonne, Moscou, Copenhague et j'en passe. » On parle des sommes astronomiques dépensées sans la moindre justification.
Horace et Jean-Bénédicte passèrent longuement en revue les documents, prenant conscience de l'ampleur des dépenses.
Regardez-moi ce type qui se fait payer des suites à l'hôtel Grande-Bretagne à Athènes, au Bayer Richard Hof à Munich, au Plaza Athènes à Paris,
dit Horace d'un air dégoûté.
Toujours des week-ends, toujours les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, ajouta Tarnogol. « Macaire pique dans la caisse pour se payer du bon temps !»«
Comment expliquez-vous que personne n'ait rien remarqué depuis tout ce temps ?» demanda Horace.
« Vous imaginez les employés de la comptabilité qui iraient chercher des poux au futur président de la banque pour savoir si ces notes de frais sont justifiées ?»
répondit Tarnogol.
« Les gars ne sont pas fous, croyez-moi. Ils se sont tous rendus compte que cette histoire n'était pas nette, mais ils ont préféré cacher tout cela sous le tapis. »
« Est-ce que Macaire a une double vie ?» se demanda Jean-Bénédicte.
« Est-ce qu'il trompe Anastasia ?»«
Peu importe, » objecta Horace. « Macaire peut bien faire ce qu'il veut en privé, mais pas avec l'argent de la banque. C'est notre argent qu'il a volé. »«
Dois-je comprendre que vous revenez sur votre décision ?»
demanda Tarnogol.
« Oh que oui, »
acquiesça Horace.
« C'est à Lev Levovitch que je donne ma voix. Il est temps que les Ebesner cessent de se comporter comme si tout leur appartenait. »
En entendant le récit de son cousin, Macaire se sentit parcouru de sueur froide. Il avait commis une grossière erreur en faisant payer ses voyages par la banque.
« Mais enfin, Macaire, qu'est-ce qui t'a pris ?»«
Je vais tout rembourser, » assura-t-il,
« jusqu'au dernier centime. Organise une réunion avec Tarnogol et ton père, je vais tout leur expliquer.
À ta place, j'attendrai un peu.
Je les ai eus tous les deux au téléphone ce matin. »
L'article de la Tribune annonçant ta nomination ne les a pas amusés du tout, comme tu l'imagines.
Pourquoi avoir fanfaronné auprès des journalistes alors que rien n'était encore joué ?
Moi ?
Fit Macaire dont les bras lui tombèrent.
Mais c'est pas moi qui ai prévenu la Tribune, enfin !
Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?
Je n'en sais rien. En tout cas, ton élection est très compromise.
Mais nom de Dieu, je suis un Ebesner !
S'écria Macaire.
C'est mon nom qui est inscrit sur la façade de cette banque !
Tu serais président de cette banque aujourd'hui si tu n'avais pas refilé tes actions à Tarnogol il y a 15 ans. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même.
Macaire décocha un regard noir à son cousin.
Ah, ce sale petit lèche-vagin de Jean-Bénédicte qui jouait les grands donneurs de leçons.
Dire que quand Jean-Bénédicte était entré dans la banque, il l'avait pris sous son aile. Il avait toujours été là pour lui, toujours prêt à l'aider, toujours prêt à lui sauver la mise avec des clients quand les chiffres n'étaient pas bons et qu'il fallait les traficoter un peu. Et puis un beau jour, le grand-père Hansen meurt, et voilà le cousin Jean-Bénédicte qui file là-haut au dernier étage pour intégrer le deuxième siège des Hansen au conseil. Et soudain, monsieur qui se donne des airs importants et se pavane dans les couloirs de la banque. Bien que l'envie ne lui manquât pas, Macaire jugea préférable de s'abstenir de tout commentaire belliqueux. Il préféra tenter un coup de bluff.
« Que crois-tu, Jean-Béné ? Que je vais me laisser faire ? C'est mal me connaître. Je vais faire invalider cette élection. Tu penses que j'ai attendu pendant 1 an bien sagement de savoir si le conseil allait me nommer président ? Tu penses que je me suis contenté de mettre mon destin entre les mains de Tarnogol, ton père et toi ? Ça fait 1 année que je prépare mes arrières. »
« Comment ça, tu prépares tes arrières ? » demanda Jean-Bénédicte dont la voix laissa transparaître de l'inquiétude.
Macaire toisa son cousin et laissa planer un silence mystérieux. À la fois pour réfléchir à ce qu'il allait dire, mais aussi pour savourer la domination qu'il avait toujours exercée sur Jean-Bénédicte. « Ce ne serait pas prudent de t'en parler, » finit-il par dire. « Allez, bonne journée. » Il fit mine de partir et, comme il s'y attendait, son cousin l'arrêta. « Attends, Macaire, tu peux tout me dire à moi. Tu n'as jamais eu de raison de douter de ma confiance. J'avais prévu de te parler de tout cela aujourd'hui. Depuis le début de l'année, c'est moi qui te défends bec et ongle pendant les séances du conseil. » Macaire acquiesça comme s'il venait d'être convaincu par Jean-Bénédicte. Il lâcha alors. « Il va y avoir une purge au sein de la banque. »«
Une purge ?
Je n'aime pas du tout ce mot, » s'inquiéta Jean-Bénédicte.
« Tu peux, »
répondit Macaire, s'enfonçant un peu plus dans son mensonge. « Figure-toi que ça fait une année que plusieurs de mes avocats ont monté une cellule de travail. Ils ont étudié le dossier dans l'ombre, avec acharnement, jusqu'à trouver le moyen de neutraliser les dernières volontés de mon père. Et figure-toi qu'ils ont trouvé la faille. » Son testament n'a aucune valeur juridique. Peu importe ce que décide ce conseil de pacotille, il me suffira de porter l'affaire devant la justice et le vote sera révoqué. C'est moi qui vais devenir actionnaire majoritaire de la banque, et donc président.
Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt ?
Macaire eut un sourire mi-ange, mi-démon. D'abord, parce que j'espérais que le conseil me serait fidèle, ce qui aurait permis une transition en douceur dans l'intérêt de la banque. Je ne voulais pas d'emblée créer des remous inutiles. Et puis, ça a été l'occasion pour moi de voir qui me serait fidèle et qui me planterait un couteau dans le dos. Que ton père et Tarnogol ricanent tant qu'ils le peuvent. Une fois que j'aurai pris le pouvoir, je les chasserai de la banque. Et avec eux tous les cafards qui n'ont pas cru en moi depuis le décès de mon père et m'ont manqué de respect. Une purge, je te dis.
Je t'ai toujours soutenu,
rappela Jean-Bénédicte soucieux de tirer son épingle du jeu.
Je le sais bien, cher cousin, je ne l'oublie pas. Mais il va falloir que tu consacres encore quelques efforts pour que j'arrive au sommet.
Jean-Bénédicte, après un bref instant de réflexion, dit alors, les dés ne sont pas encore jetés. La présidence se joue entre Lévovitch et toi avec, c'est vrai, un net avantage pour lui, mais tout peut encore changer. La décision finale ne sera prise par le conseil que ce samedi en fin d'après-midi, dans un salon du palace de Verbier. D'ici là, tout est possible. À ces mots, Macaire sentit la confiance le regagner et entrevit une lueur d'espoir. « Si je comprends bien, dit-il, il me reste donc encore 5 jours pour convaincre Signor Tarnogol de voter pour moi.
« Si tu parviens à convaincre Tarnogol, l'encouragea Jean-Bénédicte, alors la partie est gagnée pour toi. » Mon père se ralliera à sa voix. Tu sais que tu as déjà la mienne. »
Pour Macaire, le ciel se dégagea soudain. Il lui suffisait de convaincre un seul homme et il serait élu à l'unanimité.
« Merci de ton soutien, cher Jean-Béné, » dit Macaire d'un ton soudain magnanime,
avant de retourner à son bureau pour réfléchir au calme à comment convaincre Tarnogol. Arrivant dans l'antichambre, il vit Christina qui s'habillait pour sortir.
« Vous partez, Christina ?»«
Je vais à l'hôtel des Bergs, » annonça-t-elle. « Je n'ai toujours aucune nouvelle de Monsieur Lévovitch. Ce n'est pas son genre de ne pas prévenir. Il reste injoignable. J'ai même contacté le concierge de l'hôtel des Bergs, mais il me dit que personne ne répond et qu'il ne l'a pas vu s'en aller ce matin. C'est comme s'il avait disparu. Le concierge refuse d'aller voir dans sa suite. « Politique de l'hôtel », a-t-il dit. « Il s'est peut-être passé quelque chose de grave. »
À l'évocation de ce « quelque chose de grave », le visage de Macaire s'illumina. Si Lévovitch avait eu une attaque fulgurante dans sa salle de bain, il deviendrait président sans avoir à convaincre Tarnogol. La vie était quand même bien faite. Il eut envie de se précipiter à l'hôtel des Bergs et découvrir lui-même le corps convulsé sur le sol en marbre. Mais pas trop vite. Il fallait que l'autre reste au moins paralysé pour le restant de ses jours. Ce serait idiot que l'ambulance arrive à temps. Macaire, constatant à sa montre qu'il n'était que 11h15, décréta que Lévovitch méritait de gésir à terre encore 3 bons quarts d'heure.
« Vous n'allez nulle part, Christina, » décréta alors Macaire. « J'ai besoin de vous ici, ce n'est pas du tout le moment d'aller vous promener. »
Elle retira de mauvaise grâce son manteau. Elle aurait dû mentir et invoquer un rendez-vous de médecin, erreur de débutante. Elle hésita à prévenir un collègue pour aller voir à sa place ce qui se passait à l'hôtel des Bergs.
mais elle renonça. Si on découvrait son initiative, cela pourrait se retourner contre elle. Elle devait se cantonner à son rôle de secrétaire.
Macaire, percevant l'agitation de Christina, lui dit alors « Je vous promets que si d'ici midi nous sommes sans nouvelles de Lévovitch, j'irai moi-même à l'hôtel des Bergs et j'ordonnerai au concierge de m'ouvrir sa suite. Et maintenant, au boulot. »
Christina acquiesça. Elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir de toute façon. Elle fit le tri dans le courrier du jour, commençant par empiler les différents journaux que Lévovitch recevait et lisait quotidiennement. Le Financial Times, le Figaro, la Neue Freie Presse, le Corriere della Sera et la Tribune de Genève. Un coup d'œil à la une de ce dernier titre l'informa de la tenue, ce jour même, d'une grande conférence aux Nations Unies sur la situation des réfugiés dans le monde, à laquelle participaient président et premier ministre du monde entier. Elle ouvrit ensuite les lettres du jour, prenant connaissance de leur contenu avant d'y apposer la date de réception pour le suivi administratif. Elle apporta à Macaire son courrier et celui-ci contempla avec désarroi les deux piles de lettres qui s'amoncelaient devant lui et que Christina faisait grossir un peu plus chaque jour. Il songea que Jean-Bénédicte avait raison. Il avait été négligent avec son travail tout au long de l'année écoulée. Il s'était laissé complètement dépasser. Il était temps de remonter la pente. Il fallait qu'il s'en occupe illico. Si Tarnogol apprenait qu'il ne répondait pas au courrier, ou pire, s'il passait dans son bureau et voyait ce monceau de lettres en retard, ce serait assurément un mauvais point. Par la porte ouverte du bureau, Christina considéra son patron avec tendresse. Elle éprouvait une profonde sympathie pour Macaire Besner. Dévoué et plein de bonne volonté, mais avec ce côté légèrement blasé de ceux qui n'ont pas eu besoin de lutter pour arriver au sommet. Il n'avait jamais eu à accomplir par lui-même quoi que ce soit. Par son seul nom, il était entré au sein de la banque par la grande porte et s'était rapidement vu propulsé gestionnaire de fortune, sans avoir à faire ses preuves, et de surcroît, à une époque où les bourses faisaient l'essentiel du travail. Christina éprouvait de la peine pour Macaire. Il ne méritait pas ça. Surtout, il ne méritait pas d'être écarté de la présidence de la banque. C'était un homme doux, affable, toujours gentil. Toujours un compliment à la bouche, s'émerveillant de tout. Elle l'aimait bien. Lorsqu'elle avait commencé au sein de la banque, elle était loin d'imaginer que Lev et Macaire la charmeraient chacun à sa façon. Et elle devait parfois se contenir. Il y avait une raison tout à fait particulière qui avait amené Jean-Bénédicte à la faire engager, et elle ne devait pas l'oublier. Elle devait rester professionnelle, ne pas risquer de compromettre son travail. Midi pile. Macaire sortit de son bureau enveloppé dans son long manteau d'hiver. « J'y vais » annonça-t-il comme s'il partait pour une mission périlleuse. « Je vous accompagne !» décréta Christina en se levant de sa chaise. « Non !» lui dit fermement Macaire pour l'en dissuader. « Il faut que vous restiez à votre poste au cas où Lévovitch vous téléphonerait. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. » Macaire quitta la banque et descendit la rue de la Coraterie avant de rejoindre la place Bel Air. Il longea ensuite le quai Besançon-Hugues jusqu'au pont piétonnier des Bergs. Il s'arrêta et profita du panorama enneigé. Le lac reflétant le ciel bleu, les montagnes qui dominaient la ville, l'île Rousseau et, en arrière-plan, le panache du jet d'eau qui s'élevait comme un étendard. À l'autre extrémité du pont se dressait l'hôtel des Bergs. Macaire admira la majesté du bâtiment, sans se douter une seconde de ce qui était en train de s'y passer.